VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bienvenue à l'édition du jeudi 19 février 2015. À la une ce soir.
Au Burundi, accueil triomphal pour Bob Wegurika, directeur de la radio publique africaine, après sa libération sous caution.
Lutte contre Boko Haram, trois pays africains veulent encercler et repousser le groupe terroriste à l'intérieur des frontières du Nigeria.
L'Égypte contrainte de freiner ses ardeurs militaires en Libye.
Les grands pays ont pris position contre une intervention armée sur le sol qui ne va pas contre les intérêts de l'Égypte, mais qui vise à donner un petit peu de temps pour une solution politique.
À suivre, l'analyse d'un ancien officier de l'armée française.
Ukraine, pression et tractation en vue de l'instauration d'un cessez-le-feu total dans l'Est.
Fin aujourd'hui à Washington de la conférence de 72 heures sur la lutte contre le radicalisme violent.
Nous aurons l'économie et les sports dans moins de 10 minutes, mais avant, le journal.
Au Burundi, des dizaines de milliers de personnes sont sorties aujourd'hui pour accueillir Bob Wegurika, directeur de la radio publique africaine, station partenaire de la Voix de l'Amérique, qui a bénéficié d'une libération sous caution. Il avait été arrêté le 21 janvier en rapport avec la diffusion d'une interview avec une personne s'étant présentée comme un des assassins de trois religieuses italiennes tuées en septembre dernier au nord de Bujumbura. Timothée Dulangmai a joint Patrick Nduimana, président de l'association burundaise des radiodiffuseurs.
C'est une réaction de satisfaction de voir notre confrère libre après avoir passé près de mois à la prison, injustement, alors qu'il n'a fait qu'exercer son métier. Donc c'est un sentiment de joie qui est partagé ensemble avec tous les journalistes burundais, avec tous les acteurs des droits de l'homme au Burundi qui ont beaucoup bataillé pour que notre confrère soit libre. Donc c'est vraiment une victoire de la liberté de presse et de la liberté d'expression au Burundi.
Du côté des autorités, on estime que si Bob Wegurika connaît un des assassins présumés des religieuses italiennes, il doit fournir les informations pour qu'on arrête cette personne.
Il a fait une enquête, il a interviewé quelqu'un qui reconnaît qu'il avait une part dans l'assassinat sauvage des trois sœurs italiennes. C'était une source, il a vérifié cette source. Et Bob l'a fait, pas dans l'intention de vouloir nuire aux gens qui ont été cités par la personne, mais plutôt il a voulu éclairer la justice pour qu'il puisse utiliser les pistes qui viennent de son interview, de son enquête, afin de vouloir connaître la vérité sur l'assassinat.
Patrick Nduimana, président de l'association burundaise des radiodiffuseurs, joint à Bujumbura.
La coalition africaine regroupant le Niger, le Tchad et le Cameroun veut encercler et repousser Boko Haram à l'intérieur des frontières du Nigeria, a déclaré un haut responsable militaire à l'agence de presse Reuters. On fait le point avec Claire Morin-Gibourg.
C'est une grande offensive aérienne et terrestre que devrait mener la coalition militaire régionale à la fin du mois de mars. Les chefs militaires du Niger, du Tchad, du Bénin, du Nigeria et du Cameroun se réuniront à N'Djamena la semaine prochaine pour finaliser cette nouvelle stratégie visant à encercler Boko Haram, a déclaré le colonel Mahaman Laminou Sani, directeur de la documentation et de l'intelligence militaire des forces armées du Niger. Les opérations de cette force commune ont été retardées par les tensions existant entre le Nigeria et le Cameroun, notamment sur le droit des troupes militaires des deux pays à poursuivre les assaillants de part et d'autre des frontières. Le colonel Sani a confirmé l'aide apportée par les Américains grâce aux drones de renseignement, tout en insistant sur la portée régionale mais aussi internationale du conflit. Pour le Nigeria, ce n'est plus seulement une question de sécurité. Si le Nigeria implose, l'ensemble de l'Afrique le ressentira, a affirmé ce haut gradé de l'armée nigérienne.
Et toujours dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale dénonce les dérives des forces de sécurité camerounaises dans l'extrême nord du pays. L'ONG camerounaise fait état d'intimidation et de torture contre la population.
Le gouvernement malien et les groupes armés du nord Mali ont convenu d'un arrêt des hostilités afin de calmer la tension durant la poursuite des négociations à Alger. C'est ce qu'indique une dépêche de l'agence Reuters citant le gouvernement algérien. C'est le cinquième round de négociations visant à mettre fin aux insurrections dans le nord du Mali contre le gouvernement de Bamako.
Épidémie d'Ebola, l'Organisation mondiale de la santé s'inquiète de la hausse des enterrements sans précaution en Sierra Leone et en Guinée, pratique qui pourrait propager la maladie. La prise en charge adéquate des cadavres hautement contagieux des malades d'Ebola est essentielle pour éviter de nouvelles contaminations qui peuvent survenir lors de la toilette mortuaire traditionnelle.
Libye, des djihadistes se réclamant du groupe État islamique ont pris le contrôle de l'université de Sirte. D'après un enseignant cité par l'AFP, l'université a annoncé la suspension des cours et le report des examens.
Au Darfour, plus de 41 000 personnes ont dû fuir les combats en 2 mois d'après l'ONU. C'est donc beaucoup plus que l'an passé. Sur la même période, 14 000 personnes avaient été contraintes de quitter leur foyer. Rappelant que les forces soudanaises ont lancé en novembre une offensive au Darfour pour essayer d'y défaire l'insurrection qui s'oppose depuis 2003 au gouvernement de Khartoum.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Fin aujourd'hui à Washington de la conférence de 72 heures sur la lutte contre le radicalisme violent. On fait le point avec Bagassi Koura.
Le président américain Barack Obama a prononcé le discours de clôture devant les représentants de plus de 60 pays au département d'État américain. Le chef de l'exécutif américain s'est longuement exprimé sur le terrorisme dans le monde. On écoute un extrait de son discours.
Nous avons tous la responsabilité de rejeter la notion que des groupes comme l'IS représentent l'islam, parce que c'est une contre-vérité qui entre dans le discours des terroristes. Mais en même temps, on doit reconnaître que des groupes comme Al-Qaïda et l'IS visent des communautés musulmanes avec leur propagande, particulièrement les jeunes musulmans. Et le chef de l'exécutif américain de poursuivre. Les communautés musulmanes, y compris les imams et les intellectuels, ont donc la responsabilité de rejeter non seulement les interprétations biaisées, mais aussi le mensonge qui dit que nous sommes engagés dans une guerre de civilisation contre l'islam, que l'Amérique et l'Occident sont en quelque sorte en guerre contre l'islam ou cherchent à éliminer l'islam, ou que nous sommes à la base de tous les maux au Moyen-Orient. De l'avis du président Obama, parfois, cette conception va au-delà des organisations terroristes. Cette conception devient la fondation sur laquelle les terroristes construisent leur idéologie et par laquelle ils essayent de justifier leur violence, et cela nous affecte tous, y compris les musulmans.
Les talibans afghans réfutent les rapports de presse faisant état de négociations prévues ce jeudi au Qatar avec des représentants américains. Ces informations sont une fabrication pure et simple, a déclaré à la Voix de l'Amérique Zabihullah Mujahid, porte-parole des insurgés islamistes. La Maison-Blanche, indique l'AFP, a également publié un démenti. Les talibans afghans ont toujours insisté pour avoir des entretiens avec les Américains avant toute négociation de paix avec Kaboul.
La crise en Ukraine, le président du pays a réclamé ce jeudi des garanties claires en cas de nouvelle violation des accords de paix par les séparatistes ukrainiens, faisant allusion aux combats ayant touché la ville stratégique de Debaltseve, abandonnée la veille par les troupes gouvernementales. On fait le point avec Jacques Aristide.
Petro Poroshenko a formulé cette requête lors de pourparlers téléphoniques ce jeudi avec son homologue russe Vladimir Poutine, la chancelière allemande Angela Merkel et le président français François Hollande. Les ruptures du cessez-le-feu ont été dénoncées lors de cette réunion, rapporte l'AFP. Le président ukrainien a affirmé que le retrait des armes lourdes du front prévu par les accords de Minsk 2, signés la semaine dernière, ne pourrait être effectif qu'une fois appliqué un cessez-le-feu total. Le russe Vladimir Poutine s'est pour sa part engagé à faire pression sur les séparatistes pour l'échange des prisonniers ukrainiens et rebelles. C'est du moins ce qu'affirme un communiqué publié par la chancellerie allemande. Mercredi, le président ukrainien a déclaré avoir demandé l'envoi d'une mission policière de l'Union européenne, mandatée par l'ONU pour maintenir la paix dans l'est du pays. Mais les rebelles pro-russes, de même que Moscou, ont dénoncé cette requête, estimant qu'elle violerait l'accord de cesser le feu.
La Grèce a officiellement requis de ses créanciers européens une extension de 6 mois sur son plan de sauvetage de 270 milliards de dollars. Dans une déclaration anonyme, certains responsables européens ont confirmé que les ministres des Finances de la zone euro doivent se réunir demain pour analyser cette demande. Réaction en Allemagne, une réaction plutôt négative, Berlin disant que ce n'est pas une proposition substantielle pour une solution. Athènes se dit optimiste, Washington souhaite un compromis.
Un nouveau rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique accuse l'Iran de n'avoir pas expliqué deux points relatifs à une possible dimension militaire de son programme nucléaire. Pourtant, Téhéran s'était engagé à répondre, dit l'AIEA. Cette révélation précède de trois jours une rencontre entre le ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif, et son homologue américain, John Kerry, autour du programme nucléaire iranien. Selon l'AFP, les explications promises par l'Iran étaient attendues avant le 25 août dernier. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco avec Timothée Donangmaï.
Madagascar, bientôt grenier de l'océan Indien, c'est en tout cas le projet du président Eri Rajaonarimampianine qui fait remarquer qu'un dixième seulement des terres cultivables du pays sont actuellement exploitées. Le chef de l'État malgache, que cite l'AFP, s'exprimait à l'ouverture d'une conférence des bailleurs de fonds sur la sécurité alimentaire dans la région. Selon le président Rajaonarimampianine, une augmentation de 10% de la production nationale permettrait d'éviter les importations alimentaires par la Grande Île. Les chaînes internationales de supermarchés à l'assaut du Kenya, avec un PNB de 53,4 milliards de dollars et sa réputation de centre commercial d'Afrique de l'Est, le pays attire les investisseurs. Selon l'agence Reuters, le géant français Carrefour compte y ouvrir son premier supermarché cette année à travers sa filiale Majid Al Futtaim, basée à Dubaï. Pour le moment, le marché kenyan reste dominé par des chaînes locales qui résistent à l'arrivée d'intrus. Ainsi, en 2013, la compagnie américaine Walmart s'était heurtée à une action judiciaire des propriétaires de la chaîne locale Naivas qu'elle tentait d'acquérir. Enfin, coup d'envoi aujourd'hui à Casablanca, au Maroc, du 3e Forum international Afrique-Développement. 1700 responsables des milieux d'affaires prennent part à cette rencontre organisée par le groupe Atijari Wafa Bank et Maroc Export.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Timothée Donangmaï.
Et Timothée cède la place à Bagassi Koura, fan éternel des étalons, et on sait pourquoi. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Football, CAN de moins de 17 ans au Niger.
Oui, dans le groupe B, le Mali en tête de ce groupe donc a fait match nul avec l'Afrique du Sud, 2-2. Et dans le duel entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire en cours en ce moment, c'est le Cameroun qui mène 1-0.
Et la Tunisie porte plainte auprès du tribunal arbitral du sport.
Oui, la Fédération tunisienne de football a déposé un recours auprès du TAS contre les sanctions de la CAF lors de la CAN 2015. La Tunisie avait accusé la CAF de partialité après avoir été éliminée en quart de finale de la CAN 2015 sur un pénalty inexistant, c'est vrai, en faveur du pays hôte, la Guinée équatoriale, 2-1.
On a tous vu le match, c'était un pénalty imaginaire.
Ben, l'arbitre en tout cas a été sanctionné. Le Mauricien Sechourne Rachid Rapassard a été suspendu 6 mois. Par la CAF, c'était le 3 février.
Et malgré tout, la CAF réclame des excuses de la Tunisie. On a joué hier soir en Europe la suite des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions.
Oui, et Cristiano Ronaldo a retrouvé le chemin du but pour guider le Real Madrid à la victoire sur Schalke. Nul fier, comme on dit en Allemagne, 2-0 à l'issue d'une rencontre qu'il a totalement dominée. Le FC Porto, lui, grâce à un pénalty de Danilo en seconde période, a ramené mercredi de balle un match nul, 1-1, qui lui donne un avantage en vue de la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.
Verra-t-on jamais un mondial à 48 équipes?
Ben, c'est la conversation du jour. L'ancienne star portugaise Luis Figo a lancé sa campagne pour la présidence de la FIFA à Londres en proposant une nouvelle formule du mondial, 2 tournois à 24 équipes, disputés simultanément sur 2 continents différents. Cette réforme a pour but, dit-il, de donner du poids aux équipes non européennes. C'est en tout cas le projet de l'ancien meneur du Real Madrid, âgé de 42 ans, qui a fait la présentation au stade Wembley à Londres. Les 2 tournois, dit-il, de 24, seraient suivis d'une phase finale organisée dans un seul pays.
Peut-être que dans ce système, Haïti aurait eu une chance. Et il propose quoi d'autre?
Ben, vous vous rappelez, quand on était tout petit, il y avait cette règle que lui, il souhaite rétablir, l'ancienne règle de Orger qui s'appliquait naguère à tous les joueurs. C'est-à-dire que vous ayez la balle ou pas, Si vous êtes derrière le dernier défenseur, eh bien, l'arbitre doit siffler. Eh bien, lui, Figo veut instaurer cette règle-là. On ne sait pas ce que ça va donner. Mais il y avait l'autre règle aussi. On disait que trois fois corner, ça faisait pénalty. Hein, vous vous rappelez?
Alors là, ça n'en parlons pas. Merci, Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et chez Rubin Dorcy, et Morgane Guiriac en votre compagnie, place au dossier du jour et nous partons au Togo, chez Rubin.
La fermeture de toutes les écoles du pays continue de faire des vagues. Mardi, à la suite de manifestations d'étudiants, le gouvernement a décidé de fermer tous les établissements scolaires publics et privés, à l'exception des universités, pour des motifs de sécurité. Les syndicats, qui réclament une hausse de salaire pour les 50 000 employés du secteur public, ont appelé hier à une nouvelle grève de 72 heures. Claire Morin-Gibourg a joint Kondo Komlanvi, président du mouvement pour l'épanouissement de l'étudiant togolais, qui revient sur les raisons de la colère estudiantine.
Après la grève, le gouvernement défalque les salaires des enseignants et les enseignants considèrent les cours qui ne sont pas faits à l'époque des grèves-là comme considérés faits. Donc ça frustre un peu les élèves et c'est ce qui fait que les élèves sont obligés de descendre dans la rue pour réclamer le retour de leurs enseignants et demander au gouvernement de prendre les mesures idoines pour trouver des solutions à cela, qu'eux ne soient pas victimes de la grève des enseignants.
Pour quelles raisons la situation s'est durcie ces derniers jours?
Oui, la situation s'est durcie par rapport à la sortie du Premier ministre quand tenant des propos injurés envers les syndicats. Et le fait que depuis 2011, ils ont négocié avec les syndicats, ils ont prévu augmenter l'indice de la grille salariale depuis 2014, qui n'est pas encore réalisé. L'enseignant ou même les fonctionnaires n'ont pas un statut particulier jusqu'au jour d'aujourd'hui. Or, c'est des trucs qu'ils avaient trouvé des accords à cela depuis 2010. Donc, comme ils n'ont pas pris encore le décret pour concrétiser cela, c'est tous ces problèmes qui font que les enseignants, les médecins et les travailleurs togolais ne sont pas en bonne santé avec eux. C'est ce qui fait que la situation se dégrade du jour au jour.
Est-ce que vous êtes pour l'instauration d'un service minimum alors chez les enseignants, par exemple?
Oui, les enseignants, eux, ils considèrent les coûts qui ne sont pas faits pendant la grève. C'est seulement les médecins qui instaurent un minimum de services pour soigner les cas urgents. Et le Premier ministre est même allé dire que lui ne se soigne même pas au pays. C'est ce qui a frustré bon nombre de Togolais.
Quelles vont être vos prochaines actions, alors, au niveau du MET?
Nous soutenons fermement la grève des centrales syndicales, la STT surtout, d'ici les jours à venir, s'il n'y a pas la réouverture des écoles, pour que nos petits frères aillent à l'école. S'il n'y a pas la négociation pour trouver des mesures idoines à la crise qui mine actuellement le Togo, le maître appellera les étudiants à descendre dans les rues pour soutenir les camarades. Mais nous allons faire sortir premièrement un communiqué. Mais s'il ne prend pas en compte la mesure de la gravité de la situation, nous serons obligés de prendre responsabilités en descendant dans les rues dans les jours à venir.
Voilà, c'était Kondo Komlanvi, président du mouvement pour l'épanouissement de l'étudiant togolais.
La Voix de l'Amérique au Togo, sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpamé.
Fin aujourd'hui à Washington de la conférence de 72 heures sur la lutte contre le radicalisme violent. Devant les représentants de plus de 60 pays, le président Barack Obama appelle à lutter contre les fausses promesses de l'extrémisme. Hier, il s'est défendu d'être en guerre contre l'islamisme. Aujourd'hui, il a réitéré que la notion que l'Occident est en guerre contre l'islam est un pur mensonge. Il a ajouté que la pauvreté, l'opposition et l'oppression alimentent la violence extrémiste. Il a cité l'exemple de ce jeune musulman malien qui a sauvé des vies pendant l'attaque terroriste d'un supermarché Kacher le mois dernier à Paris. Nicolas Pineau a recueilli la réaction de Nasser Wedadi, analyste politique à Boston.
Je suis pas convaincu. Je trouve qu'il est en train de débattre la mauvaise problématique. Il ne s'agit pas de savoir si l'Occident est en guerre avec l'islam. Il faudrait plutôt identifier et isoler le fait que l'intégrisme islamiste vient même du cœur du monde islamique. Globalement, les carences du discours du président Obama sont fondamentalement liées à une crise profonde qui mêle l'Occident. On est en train de se chercher. On est dans une phase de réflexion où l'on n'est plus confortable avec le multiculturalisme et on n'arrive pas à décerner le danger.
Barack Obama a mis l'accent sur la nécessité de faire appel aux leaders religieux et aux communautés. On sait souvent qu'ici aux États-Unis, il y a beaucoup de méfiance. Qu'est-ce que vous pensez de ce point particulier du discours du président américain ?
Les tensions sont fortes, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier, ou en particulier en Occident. Il est bien que quelqu'un vienne pour essayer de faire baisser ces tensions. Par rapport à la recommandation du président de travailler avec, à travers les leaders religieux, c'est une conception naïve. On l'a vu, une bonne partie des jeunes radicalisés ne sont pas passés par la mosquée locale. Ils ont trouvé les prêches qui l'ont radicalisé ailleurs. Et on est encore en train d'évoluer dans le discours du post-11 septembre immédiat. Il me semble que le président a raté l'épisode durant la décennie écoulée.
Le président a assuré que la lutte contre le groupe État islamique prendra du temps. Mais est-ce là un aveu d'impuissance ? Nicolas Pineau a joint le docteur Walid Fares, conseiller en contre-terrorisme auprès du Congrès américain.
C'est un aveu d'impuissance, mais c'est le système qui est un peu responsable de cette crise. Nous sommes à la 14e année après le 11 septembre. Nous sommes, comme États-Unis, intervenus en Afghanistan, en Irak. Nous sommes revenus maintenant avec une coalition contre l'État islamique. Mais certainement, les États-Unis ont une responsabilité tout à fait spéciale parce que l'Amérique, comme on le sait, a joué et joue encore un jeu très important dans le leadership de la campagne. Ayant dit cela, le président Obama, bien sûr, sait très bien que c'est une lutte qui va prendre beaucoup de temps. Ce n'est pas une question de mois ou d'années.
Le président Obama a été critiqué par certains républicains pour ne pas avoir intitulé ce sommet « Sommet contre la violence islamiste ». Qu'en pensez-vous ?
Ben écoutez, il y a ce débat à Washington, on le connaît très bien. Il y a le camp du président Obama qui prône la neutralité linguistique, alors que le camp adverse, et dans lequel il y a pas seulement des républicains, mais aussi des libéraux et des démocrates, vont promouvoir l'idée que si on n'identifie pas l'idéologie par son nom, par ses valeurs, et par ses principes, on ne pourra pas concevoir une stratégie pour la contrer. L'opinion publique américaine, elle, ce qu'elle veut, c'est des résultats sur le terrain.
Voilà, c'était le docteur Walid Fares, conseiller en contre-terrorisme auprès du Congrès américain.
Les grands pays, États-Unis, France, Royaume-Uni, Allemagne, ont pris position contre une intervention armée sur le sol avant-hier, je crois. Qui ne va pas contre les intérêts de l'Égypte, mais qui vise à donner un petit peu de temps pour une solution politique qu'on ne voit pas très bien.
Voilà une bande sur laquelle nous allons revenir dans quelques instants. L'Égypte, contrainte de freiner ses ardeurs militaires en Libye, après 2 jours de négociations au sein du Conseil de sécurité, le Caire est revenu sur sa demande d'une intervention militaire internationale en Libye. Une volte-face qui intervient suite à une déclaration commune de la France, des États-Unis, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, de l'Italie et de l'Espagne en faveur d'une solution politique au conflit libyen. Pour un point de vue militaire sur la question, Salwa Jafari a joint par téléphone l'amiral Alain Koldefi, président de la revue Défense Nationale, ancien inspecteur général des armées de France.
Les grands pays, États-Unis, France, Royaume-Uni, Allemagne, ont pris position contre une intervention armée sur le sol avant-hier, je crois, qui ne va pas contre les intérêts de l'Égypte, mais qui vise à donner un petit peu de temps pour une solution politique qu'on ne voit pas très très bien en fait. Mais on sait très bien que une intervention militaire n'a de sens que s'il y a un règlement politique de la situation derrière. Une intervention militaire pour une intervention militaire n'a aucun sens dans un pays qui en plus est complètement éclaté depuis la disparition de Kadhafi.
La Libye demande une levée de l'embargo sur les armes. Peut-elle se défendre face à la menace de l'État islamique à ce stade ?
Non, absolument pas, parce que l'éclatement de la Libye a fait qu'il y a eu une dispersion des armes, des officiers, de l'encadrement, des capacités, qui fait que l'État libyen, si tant est qu'il en est un,
est incapable de se mettre sous les armes. Alors, la levée de l'embargo est quelque chose que je pense pourrait être accepté au Conseil de sécurité, car elle pèse depuis 2011, elle avait pour ambition de mettre un peu un chapeau sur la situation, mais elle permettrait d'armer l'armée régulière libyenne de façon à lui permettre, en allié avec sans doute les forces égyptiennes, de reprendre la situation. Mais comme vous l'avez dit, la situation est très confuse et on ne voit pas comment actuellement réunifier la Libye. Donc on est vraiment dans une situation qui n'a pas d'issue. Et en tout cas, c'est mon avis, la perspective d'une opération militaire qui peut toujours avoir lieu, bien sûr, qui pourra, s'il y a des forces occidentales qui appuient les Égyptiens, qui vaincra un adversaire, mais qui n'empêchera pas la reconstitution des foyers de crise.
Voilà, c'était l'amiral Col Défi, président de la revue Défense Nationale.
Au Burkina Faso, des jeunes de la localité de Markoï, dans le nord-est du pays, ont saccagé mardi des installations de la mine de manganèse de Tambao, la plus importante du pays. D'ailleurs, ce n'est pas le premier mouvement du genre concernant une mine au Burkina Faso. Pour comprendre les raisons de ces manifestations, Bagassi Koura a joint Dr. Rassabelga Ouedraogo, directeur de l'Institut économique Free Afrique.
Les populations estiment qu'il y a eu des accords avec le groupe Tinus, qui est repreneur de cette mine de Tambao, de la mine de manganèse. Ce qui est évoqué par les populations, c'est le non-respect d'engagement pris par le groupe qui exploite cette mine.
Alors, si les populations manifestent de la sorte, est-ce à dire qu'elles n'ont pas d'autre voie de recours?
Non, en réalité, il faut bien comprendre que ce soit dans le cadre de cette mine de Tambao comme la mine de Namusigma dans le Yatenga, il y avait des interpellations du groupe lié comme du gouvernement qui sont enterrées à ces manifestations violentes. Et peut-être que c'est parce que ces interpellations n'ont pas reçu de traitement assez conséquent.
Il n'y a pas longtemps, une ONG avait proposé qu'on reverse 1% des revenus des mines aux populations locales. Est-ce que ça pourrait être une des solutions à ce genre de mouvement?
Il faut d'abord comprendre ce qui se passe. Nous sommes dans un contexte général d'un développement extraordinaire du secteur minier depuis une décennie. Cependant, l'ancien régime a accordé beaucoup de concessions dans des contrats relativement opaques. On est dans des situations d'économie minière qui sont ce que des auteurs ont appelé d'économie d'enclave, c'est-à-dire que l'investisseur étranger arrive et exploite la mine sans lien étroit avec les intérêts de la population ni avec l'économie locale. À mon avis, il y a deux choses à faire. La chose la plus urgente, c'est que le gouvernement soit davantage proactif pour dévancer ces crises et les traiter vraiment au plus pressé, c'est vrai, mais les traiter de façon à ce qu'on ait le temps de construire un deuxième temps de solution, qui est celui du renouveau de la gouvernance minière qu'il faut dans notre pays. Nous avons la chance que la transition a prévu une commission vérité, justice, réconciliation et des réformes. Et dans cette commission, il y a une sous-commission qui doit connaître, entre autres, des questions de renouveau de la gouvernance minière. C'est là qu'il faut traiter cette question de qu'est-ce qu'il faut reverser au niveau des collectivités locales pour le développement de la région.
Docteur Rassabelga Ouedraogo, directeur de l'Institut économique Free Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, un rappel de quelques grands points de l'actualité.
Au Burundi, accueil triomphal aujourd'hui pour Bob Rugurika, directeur de la radio publique africaine après sa libération sous caution.
Lutte contre Boko Haram, trois pays africains veulent encercler et repousser le groupe terroriste à l'intérieur des frontières du Nigeria.
Les talibans afghans réfutent les rapports de presse faisant état de négociations prévues ce jeudi au Qatar avec des représentants américains. La Maison-Blanche dément également.
La Grèce a officiellement requis de ses créanciers européens une extension de 6 mois sur son plan de sauvetage de 270 milliards de dollars. Les ministres des Finances de la zone euro se réuniront demain pour analyser cette demande.
Voilà.
Présentation Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil. C'était Lionel Gaïma à la mise en onde.
Il faut saluer Micha Dubinsky, notre ami, à la console technique.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Dakar, sur 102 FM. Top Congo, Kinshasa. Nostalgie FM, Ouagadougou. 99.8 FM, Korogo, Côte d'Ivoire. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui, sur VOA Afrique.